Lundi 2 décembre 2013, au théâtre Jean Villard de Montpellier, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le théâtre sans jamais avoir osé le demander. Luc Bremer, Mathias Beller et des étudiants de l'ENSAD sur le thème « Un théâtre, comment ça marche ?» »250 métiers pour servir l'art et la culture dans le domaine des arts vivants. 250 métiers, pourquoi faire ?
Metteur en scène.
Collaborateur de metteur en scène.
Dramaturge.
Conseiller artistique.
Assistant metteur en scène.
Artiste dramatique.
Comédien.
Marionnettiste.
Conteur. Mime.
Artiste dramatique de variété.
Imitateur.
Fantaisiste.
Chorégraphe.
Maître de ballet.
Collaborateur du chorégraphe ou du maître de ballet.
Collaborateur artistique.
Assistant du chorégraphe.
Danseur soliste.
Danseur de ballet. Danseur de variété. Danseur de jazz, danseur de moderne, danseur de contemporain, danseur de danse urbaine, danseur de hip-hop,
chef d'orchestre,
danseur de danse
directeur
du monde
musical,
traditionnel,
collaborateur du chef
danseur
d'orchestre,
de revue,
conseiller
danseur
musical,
de
assistant
danseur
musical,
de cabaret,
musicien
art dramatique,
musicien soliste,
art chorégraphique,
musicien,
cuivre,
musique, instrument,
clavier,
musique, voix,
orchestre,
art du cirque et des arts visuels, autres activités artistiques, formation et accompagnement artistique, régie, machinerie, accessoires, éclairage, son, audiovisuel,
accompagnateur, répétiteur de chant, répétiteur de théâtre, répétiteur de ballet, transcripteur artistique, musicien copiste,
coiffure, maquillage,
formateur musical, formateur art,
direction,
formateur danse, formateur art du
cirque,
accompagnateur, répétiteur de chant, répétiteur de ballet, transcripteur artistique,
répétiteur
de théâtre, musicien copiste, contacteur, formateur, formateur musical,
accueil,
formateur danse,
formateur art du cirque,
accompagnateur, musicien copiste,
régisseur général de scène,
formateur musical,
régisseur général d'orchestre,
formateur
de chœur,
accompagnateur,
régisseur général de ballet, régisseur spécialisé, régisseur de scène, régisseur d'orchestre ou des chœurs, régisseur de ballet,
régisseur
de trônée, régisseur de
art
salle,
chorégraphique,
régisseur de site,
musique,
assistant de régie,
musique,
responsable voix, logistique,
art du cirque,
technicien
et des arts
de
visuels,
la logistique,
autres activités artistiques, formation et accompagnement artistique, régie, machinerie, accessoires, éclairage, son, audiovisuel, décor, costume, coiffure, maquillage, direction, production, fonction commerciale et technico-commerciale, communication, accueil, services administratifs et généraux.
Et oui, mesdames, messieurs, il y a plus de 250 métiers pour servir l'art et la culture dans le domaine des arts vivants. Bienvenue au Théâtre Jean Villard pour l'ouverture de ce cycle « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le théâtre sans jamais avoir osé le demander ». Ce soir, nous vous proposons de partager le thème de « Un théâtre, comment ça marche ?». La maquette que nous avons conçue et que nous évaluerons ensemble tout à l'heure se déroule en trois temps. Un premier temps, le débatteur présente son argumentaire de façon plutôt didactique. Un deuxième temps, le propos, le thème sont mis en texte par les élèves et les étudiants en insistant sur le côté littéraire et philosophique, voire politique. Et en cela, ils forment un cœur. Le troisième temps, c'est le dissenseur Mathias Beller. Ce soir, avec la salle, questionne, interroge les propos du débatteur et du chœur. Et quatrième temps, on se retrouve au bar pour se dire ce qu'on a vraiment à se dire. En tout cas pour les plus timides, il est connu que dans les débats, on n'ose jamais dire ce que l'on a envie de dire. Quelle mouche nous a piqué pour organiser ce type de rencontre ? Au cours de ces 20 années passées à la tête de ce théâtre, je me suis rendu compte combien le public, au sens large du terme, était ignorant du fonctionnement d'un théâtre. Quand je dis public, je cite les spectateurs, bien sûr, mais au-delà, j'inclus les hommes et les femmes politiques, les responsables administratifs, les responsables associatifs et tous ceux qui ont affaire, plus ou moins, de loin ou de près, avec le théâtre. Deux exemples. Nous avions accueilli un concert de Brigitte Fontaine qui s'est avéré complet assez rapidement. Une spectatrice, courroucée de ne pas avoir de place, nous enjoint de faire revenir Brigitte Fontaine le lendemain avec cet argument choc. De toute façon, elle part avec la caisse, Brigitte Fontaine. Ça lui fera un peu plus d'argent. C'était quand même ignorer la façon dont on travaille avec les artistes. Autre exemple, un responsable associatif me contacte pour faire passer un spectacle dans le cadre de son projet et qu'il souhaite que nous soyons partenaires, ce que nous acceptons généralement volontiers. En général, il accompagne son propos d'une « en technique, tu verras, c'est trois fois rien ». Alors, on se met autour d'une table, on commence à regarder la fiche technique du spectacle, quand il y en a une, et de mettre en face le nombre de services de techniciens avec les temps de travail, et puis nous examinons le côté administratif avec les contrats, les déclarations, la billetterie, et là notre interlocuteur découvre que le théâtre, ce n'est pas que le moment de la représentation, mais que pour tous les spectacles, il y a un avant et un après. Sans être un brin provocateur, je dirais que certaines compagnies de théâtre ne savent pas toujours comment fonctionne un théâtre, et qu'il y a parfois un temps d'adaptation. Je trouve l'ignorance du public grave. Ne voir que le temps de la représentation, c'est encore en quelque sorte nier toute la mise en œuvre nécessaire pour que le spectacle ait lieu. C'est ce que nous allons tenter d'expliquer ce soir. La deuxième motivation pour ces rencontres spectacles, elle est beaucoup plus ambitieuse et elle sera plus dure à réaliser, c'est de réintroduire le débat avec et entre les artistes, qu'ils sentent que cette maison est la leur et que le collectif est aussi une façon de réfléchir. Ce que je vais vous présenter ce soir concerne essentiellement mon expérience au Théâtre Jean Vilar. Chaque directeur, chaque théâtre a en effet un fonctionnement qui lui est propre, mais tous les théâtres ont un fond de fonctionnement qui leur est commun, c'est le réglementaire. Certains d'entre vous connaissent déjà les arcanes du fonctionnement d'un théâtre et votre participation sera précieuse au moment du débat. Le vif du sujet. Il existe une hiérarchie dans les théâtres publics en France, une hiérarchie qui, suivant comme on la regarde, est de l'ordre de la mission, du territoire et du financement. Donc, et dans l'ordre, au sommet de la pyramide, les centres dramatiques nationaux, le Théâtre des 13 Vents à Montpellier. Ils sont dirigés par des artistes nommés par le ministère de la Culture en accord avec les collectivités locales. Il y en a 39 en France, chiffre de 2009. Ce sont des lieux de création, de production et de diffusion. Les scènes nationales, elles sont dirigées par des directeurs artistiques et administratifs. Il y en a 53 en France et ce sont aussi des lieux de création, de production et de diffusion. Et puis il y a les scènes conventionnées, qui sont conventionnées sur des thématiques, jeunes publics, écriture contemporaine, art mêlé, etc., et qui ont pour mission la création et la diffusion dans leur domaine de conventionnement. Enfin, les théâtres de ville, c'est le cas du Théâtre Jean Vilar, ou de collectivités territoriales, comme le domaine d'eau, qui peuvent avoir des missions diverses, mais qui, en règle générale, s'occupent de création, diffusion et d'action culturelle. Bien sûr, ce paysage théâtral est brossé à grands traits, mais il illustre bien la complexité du théâtre en France, parce qu'à bien y regarder, nous faisons tous la même chose, création, diffusion, action culturelle, mais à des échelles différentes et dans des lignes éditoriales propres à chaque lieu. Pourquoi cet état de fait ? Nous sommes nombreux à estimer que pour qu'un théâtre existe vraiment, il faut qu'il soit paré de ses compétences, donc création, diffusion et action culturelle. On dit d'un théâtre qui ne fait que de la diffusion que c'est un garage, et on note le mépris sous-jacent, et pourtant il y a de très beaux garages. Le nombre de compagnies s'étant beaucoup développé, cela permet d'une part de les accueillir et d'avoir une offre de spectacle importante. Sur Montpellier, par exemple, les 6 théâtres publics proposent plus de 400 représentations par saison, avec un taux de remplissage très honorable. Donc, Chaque théâtre revendiquant de faire de la diffusion, de la création et de l'action culturelle. Si vous ajoutez à cela une formation de comédiens de plus en plus normative, parce qu'on voit d'institutionnalisation, les écoles d'art viennent de passer sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère des Universités. Si vous ajoutez à cela les effets de la mondialisation qui détermine les lignes esthétiques des cultures dominantes, si vous ajoutez les modes, par exemple mettre des images partout, ne risque-t-on pas d'arriver à une pensée unique du théâtre et donc à sa propre négation? Bon, là on s'est fait un peu peur. Revenons aux réalités et voyons comment tout cela fonctionne. Un théâtre, c'est d'abord une équipe composée d'artistes, de personnels administratifs, de médiateurs, de personnels d'entretien et de techniciens. Une équipe qui a pour obligation d'avancer du même pas, chacun étant contingent de l'autre, la fonction de direction consistant à coordonner, ou d'essayer de coordonner les composantes de l'équipe. Il doit aussi coordonner les différents temps, le temps administratif, le temps de la saison, le temps artistique, qui est à géométrie variable, le temps scolaire et le temps politique. Il doit aussi composer avec l'air du temps, dans des périodes fastes ou des périodes plus difficiles. C'est de cette météo que naît la vie d'un théâtre. La programmation. La programmation de la saison, c'est un peu le sel du théâtre. D'abord, définir une ligne éditoriale. La ligne éditoriale d'un théâtre est définie par le parti pris du genre théâtral composant la programmation. Je le redis doucement. Donc, la ligne éditoriale d'un théâtre est définie par le parti pris du genre théâtral composant la programmation. On pourrait aussi parler d'état d'esprit. Au Théâtre Jean Villard, nous avons choisi l'éclectisme comme ligne éditoriale, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, ce qu'il y a de meilleur dans chaque genre. Notre programmation s'articule autour du théâtre en direction d'un jeune public, de la chanson française, du cirque, de la danse, de la performance, et de toute autre forme possible, en ne nous posant aucun interdit. Pourquoi cette ligne éditoriale? Parce que je crois que le public est prêt à la diversité, que l'art et la culture sont par nature diverses, et que j'aime bien la notion de voyage dans l'univers théâtral. Je ne crois pas à la thématique répétitive. Un de mes amis, directeur de théâtre, qui travaillait sur des thématiques, avait choisi pour une de ses saisons le travail. Et au bout de la 10e représentation, le public est venu le voir en le suppliant de moduler sa programmation. La programmation d'une saison se prépare un an, voire deux ans en avance. Au Théâtre Jean Villard, il y a trois programmateurs. Stéphanie, qui s'occupe du théâtre jeune public. Jean-François, qui s'occupe des concerts. Et puis moi, qui programme le reste, le théâtre en règle générale. Et qui signe la programmation. Signer la programmation, c'est un acte de responsabilité. C'est assumer un choix collectif. C'est une forme d'engagement à soutenir, quoi qu'il arrive, ce qui est programmé. L'art de la programmation, c'est de mettre en résonance les différents genres. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de recette pour faire une bonne programmation. Il y a d'abord l'intuition, bien avant la raison. La raison serait de se dire à qui je vais faire plaisir. Il ne s'agit pas de plaire, il s'agit de séduire. Et l'art de la séduction est beaucoup plus complexe que le confort du plaisir. L'art de la programmation, c'est de créer une harmonie, certes un peu métaphysique, entre les spectacles. C'est aussi bien les ordonner. Chaque année, alors que la programmation est pratiquement bouclée, on sent que ça va pas, on tourne autour du pot, on cherche ce qui ne va pas, on poursuit le spectacle qui fera tâche, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il n'est pas à sa place. Et puis le lendemain, on déplace, on raye encore, et tout d'un coup, ça y est, elle est là, on la tient, alors tout tremblant, on la propose à l'ensemble de l'équipe, on attend le verdict, on voit les visages se détendre, et on sait qu'elle est prête. Alors l'intuitif et le raisonnable se rejoignent. La programmation, c'est aussi une censure. Nous aurons vu collectivement environ 200 spectacles pour n'en retenir qu'une vingtaine. Nous sommes aussi bien conscients qu'il n'existe pas un public, mais des publics, et être spectateur aujourd'hui, c'est faire une vraie démarche, c'est sortir de chez soi, trouver une solution pour les enfants, se transporter avant d'être transporté par le spectacle qu'on vient de voir, c'est affronter l'inconnu et c'est même envisager de passer une mauvaise soirée. C'est donc un acte volontariste. On parle souvent d'un théâtre comme on parle d'une maison, une maison habitée par l'équipe qui aurait pour vocation d'inviter des compagnies et de convoquer un public pour que l'un rencontre l'autre et vice-versa. Dans la rencontre entre l'artiste et le théâtre, il y a trois cas de figure. Pour faire une programmation, nous alternons les œuvres créées et les œuvres à créer. Pour les œuvres déjà créées, nous sommes dans ce qu'on appelle la diffusion de spectacle. Après avoir été vus par les programmateurs et acceptés en réunion de programmation, nous convenons par contrat que nous accueillerons la compagnie X pour la diffusion de l'œuvre Y dans les conditions Z, et même Zen si possible. À son arrivée, la compagnie est accueillie par l'équipe du théâtre et tout se met en œuvre pour la mise en place du spectacle. Sur le plan technique, les régisseurs de tournée travaillent avec les régisseurs du théâtre. Les comédiens et les metteurs en scène sont sollicités pour des interventions auprès d'élèves, de groupes, et puis le chargé de communication organise le plus d'interviews possible de façon à ce que l'on sache que le spectacle va avoir lieu. Il arrive même qu'on aille manger à midi des huîtres à bousillé. En fin de journée, place au spectacle. L'atmosphère se tempe peu à peu, le silence s'installe, la concentration est de plus en plus palpable, on ne parle plus qu'à voix basse, les coulisses deviennent monacales, la consommation de cigarettes augmente considérablement, et c'est là que rentre en jeu la psychologie du régisseur plateau, celui qui accueille les comédiens au moment de la représentation. Il doit les mettre en confiance, veiller à ce que rien ne les déconcentre, et le spectacle commence. Ce que je viens de vous décrire est un peu un scénario idéal. Il y a des situations plus paradoxales. Par exemple, un comédien qui apprend 20 minutes avant d'entrer en scène qu'il vient d'être papa alors qu'il doit jouer un drame. Alors ce soir-là, bien sûr, il joue la tragédie avec le sourire aux lèvres. Le deuxième cas de figure se situe dans le champ des résidences et se subdivise en deux possibilités. Une résidence courte, généralement une semaine, qui sert à la compagnie soit à faire sa création lumière, soit à terminer le montage d'un spectacle ou de réunir simplement les comédiens pour un travail à la table. Et puis la résidence longue sur 2 ou 3 ans qui se traduit par l'accueil d'une compagnie dans le théâtre. Cette résidence fait l'objet d'une convention qui détermine les spectacles qui seront créés et de l'action culturelle qui sera mise en place durant la résidence. Pour créer un spectacle, un artiste a besoin d'un projet, d'interprètes, d'argent pour monter la production et d'un lieu pour travailler. Concrètement, qu'est-ce qu'un artiste aujourd'hui qui veut créer un spectacle ? Généralement, c'est un metteur en scène. Mais c'est aussi un chef de troupe, un directeur de compagnie, un vendeur de projets, un diffuseur de son spectacle, un comptable, un dénicheur d'aide et de subventions, un intervenant en médiation, un gestionnaire de ressources humaines, un régulateur de conflits, un juriste obtenant les droits d'interprétation, un homme d'affaires gérant 5 projets à la fois, un adaptateur de l'œuvre qu'il a souhaité monter, un lecteur impénitent toujours à l'affût d'un texte qui fera tilt, un comédien intervenant dans la formation d'acteurs professionnels ou amateurs, et peut-être un interprète de son propre spectacle. Enfin, un surhomme. L'artiste résident et le directeur du théâtre conviennent de mettre en œuvre la création d'un spectacle. Ils travaillent d'abord sur le choix de l'œuvre qui rentre dans la ligne éditoriale de la compagnie et du théâtre, qui va déterminer un budget de production, trouver l'argent, rémunérer les interprètes, les techniciens, construire la scénographie, décor et accessoires, gérer sa compagnie et quelques autres lignes comptables réglementaires. Il est généralement producteur de son spectacle. Pour faire image, chaque création de spectacle correspond à la création d'une petite entreprise. En tant que producteur, il va, s'il lui reste quelque argent, l'investir dans sa création et se mettre en quête de coproducteur. Là, le théâtre peut entrer en lice en devenant coproducteur, c'est-à-dire qu'il va mettre une somme dans la production et va aider le producteur à trouver d'autres coproducteurs. Le fait que le projet soit retenu par un théâtre va généralement aider le producteur à trouver d'autres aides publiques, généralement auprès de l'État et des collectivités territoriales. À noter que donc les collectivités territoriales, régions, départements, agglomérations, villes, chaque strate administrative ayant ses propres critères d'attribution d'aide à la création et ses propres formulaires surtout, qui vont de 4 à 32 pages. Et toute autre organisation dispensatrice de fonds, Spedidam, Dicréam, SACEBN, SACD et autres fonds d'aide à la création. Donc c'est un parcours du combattant. Donc il faut un surhomme et un parcours du combattant. Ensuite, le théâtre va inscrire dans son planning un temps de résidence de 4 à 5 semaines pour mettre en œuvre la totalité de la création. C'est-à-dire qu'il va co-construire le spectacle avec la compagnie en mettant en œuvre les compétences de son équipe et en les fusionnant avec l'équipe de la compagnie. C'est là, pour le théâtre, que le sens de l'équipe prend toute sa valeur et qu'il faut avancer ensemble sur un même sujet. Malgré les heures passées au préalable pour bien préciser les rôles de chacun, c'est naturellement une zone de frottement qui donne parfois lieu à de sympathiques prises de tête. Mais tant que le conflit reste créateur, tout va bien. Et puis le théâtre va accueillir la création publique du spectacle en proposant une première série de représentations. C'est de cette première série que va dépendre la vie d'un spectacle. Il faut absolument qu'il soit vu par un maximum de diffuseurs potentiels pour être acheté et continuer à vivre, c'est-à-dire à tourner. Petite information, je reçois environ 90 mails par jour, dont 50 propositions de spectacle. Multiplions 50 par 250 jours, je travaille beaucoup plus que 250 jours, ça représente environ 12 500 propositions de spectacle. Enlevant à cette somme ceux qui vous envoient trois fois le même mail pour être sûr que vous l'avez lu, ce qui n'est pas vrai, on arrive quand même à la somme colossale de 9000 propositions par an, ce qui est ingérable, bien entendu. Depuis 2004, nous avons accueilli les compagnies Les Télémites, ancêtres de la compagnie Vertigo, qui est dans la salle, la compagnie Faux Magnifico, la compagnie La Chèvre à Saint-Pat et la compagnie Adesso et Saint-Pré. À partir de cette saison, nous avons décidé de cesser l'accueil de compagnies en résidence au profit d'artistes associés au théâtre pour une durée de 2 ans. Les deux artistes cette année sont Mathias Belair et Saïda Mesgeldi. Ils ont plusieurs missions, dont deux principales. Sur les 2 ans, donc, il y a une année qui est consacrée à la création autour d'un projet participatif conçu par le théâtre et la deuxième année, la création d'un spectacle de leur compagnie. Nous avons donc vu les grandes lignes du fonctionnement d'un théâtre. 1. L'équipe avec ses 5 dominantes, l'artistique, l'administratif, la communication, la technique et l'action culturelle. 2. Les différents modes de travail avec les artistes, diffusion, création, résidence et coproduction. Et 3. La programmation d'une saison et la ligne éditoriale. Travailler dans un théâtre, c'est forcément une passion, un engagement, parce qu'un théâtre fait partie de la société, parce qu'un théâtre, c'est un engagement dans la société. Je rappelle souvent que le théâtre a été inventé en Grèce avec la démocratie, et quand je pense qu'on humilie les Grecs pour une dette inférieure à celle des régions françaises, à ce titre, le théâtre ne doit jamais être instrumentalisé. C'est le miroir implacable de la société où la vilainie et la beauté se croisent dans un ballet improbable, témoin de leur temps. À la lourde question, un théâtre à quoi ça sert? La réponse la plus répandue est « le théâtre, ça ne sert à rien, et pourtant, c'est indispensable. » J'ajouterais qu'il est le thermomètre de nos libertés.
Deuxième temps. Le thème mis en texte par le chœur, les élèves et les étudiants, en insistant sur les côtés littéraires, philosophiques et politiques.
Pouvoir public. Ces 2 années de TNP, où pour la première fois de ma vie, à partir de 39 ans, j'ai dû entrer en contact étroit avec le personnel politique et administratif de l'État, m'ont laissé très certainement une marque profonde. Désormais, j'aimerais être libre totalement et libérée d'eux. Et j'ai bien failli, et je pourrais bien encore refuser de continuer après le 1er septembre. Cependant, rien d'efficace et de durable ne peut être fait dans le domaine du théâtre sans la collaboration sévère mais compréhensive du politique, représentant de la cité et du personnel d'État. Cela n'est pas qu'une raison de subvention donnée. C'est une affaire de caractère. Il faut savoir faire vous-même, avec force et patience, ce que d'autres désirent obscurément, timide et l'esprit pas toujours clair. Il faut savoir tenir et voir clair. L'entêtement est la plus épuisante des vertus. La chance, c'est que les œuvres de théâtre que l'on aime et joue vous rappellent, d'Eliot à Corneille, leurs leçons simples et éternelles. Tous les soirs, la répétition du grand texte vous rappelle à vous, comédiens de Corneille, d'Eliot, de Shakespeare, de Don Juan, ce que d'autres placés à la tête de l'État oublient peut-être. Nous avons la chance, nous, comédiens, directeurs de théâtre, de revivre Shakespeare tous les soirs.
Je n'ai jamais eu envie de m'exhiber où que ce soit, ni même de me faire remarquer. De quelque manière que ce soit. Cependant, je suis prêt à monter chaque soir, sur une scène, devant un public, et dans la lumière, pour jouer. Je fais même tout ce qu'il faut pour ça. Il me semble que c'est bon pour Vincent. Mais il me semble aussi que j'ai quelque chose de très intéressant à dire et à montrer. Quoi, précisément? Quoi, précisément, je dis et je montre? Je ne sais pas bien et je ne sais guère m'expliquer. Mais cela me paraît être d'une absolue nécessité. Si nécessaire, même qu'il se trouve toujours quelques personnes pour venir me voir et m'écouter. Ils m'accompagnent, en quelque sorte. Et alors, le théâtre a lieu.
Je dirai tout de suite, et d'un mot, que le théâtre populaire est celui qui obéit à trois obligations concurrentes, dont chacune, prise à part, n'est pas nouvelle, mais dont la seule réunion peut être tout à fait révolutionnaire. Un public de masse, un répertoire de haute culture, une dramaturgie d'avant-garde.
Le spectateur est toujours plus riche et plus inattendu que ce qu'en diront son origine, son métier, son revenu. Il faut en tout cas lui laisser cette chance. Agir autrement, c'est le séparer de lui-même à son insu. Car on le prive d'une part de soi qu'il ne connaît pas. Un goût, un espoir, une rencontre différente avec lui-même.
Un public de masse. Chacun sait que le spectateur du peuple ne va pas beaucoup au théâtre. Le théâtre est en général un plaisir de gens aisés. Mais il n'est nullement nécessaire d'imaginer un miracle pour élargir ce public. Toute la sociologie du théâtre tient dans le prix des places, à baisser le prix de l'entrée, et peu à peu, le peuple viendra au théâtre.
En donner pour tous les goûts ne définit pas une attitude démocratique. Cela défait l'idée même de goût et dégrade la beauté subjective du choix. Là aussi se joue une fonction artistique. C'est difficile, certes, mais crucial.
Un théâtre populaire est avant tout un théâtre où il n'y a, pour ainsi dire, plus de différence entre le poulailler et l'orchestre. Le moyen, dans la société actuelle, point d'autre évidemment que les subventions de l'État. Le théâtre populaire est possible aujourd'hui même, si la nation le veut vraiment.
Je vois mal comment on peut prétendre diriger pour le plateau sans protéger cette utopie. L'œuvre qui se prépare s'adressera non pas à tous dans le désordre de la promotion, mais à chacun, dans l'ordre de la convenance de ce qui me convient, ou non. À tel moment de la vie, à tel moment d'une histoire particulière, chacun pour chacun. C'est dire l'exigence de l'assemblée et le refus de la foule. C'est flatter le particulier et non la masse.
Un répertoire de haute culture. Celui qui écrit exprès pour le peuple, même si ses intentions sont généreuses, ne peut aller qu'à un échec. Le théâtre où personne ne s'ennuie, de quelque condition qu'il soit, c'est le théâtre de Corneille, de Molière, de Shakespeare ou de Kleist. Le spectacle de Villard qui a rencontré le plus vif succès populaire, c'est la pièce la moins complaisante qui soit. C'est Don Juan.
Le plus grand nombre, cher à Malraux, ne peut être que modeste dans l'époque du plus grand conditionnement des goûts qu'ait jamais connu l'humanité. La massification, en politique comme ailleurs, jamais ne servira l'exigence ni l'invention. L'adresse faite à chacun n'est pas une illusion. C'est un problème artistique majeur, un problème politique, un problème humain.
Une dramaturgie d'avant-garde. Pourquoi pas ? L'avant-garde n'est pas forcément hermétique ou byzantine. Tout est révolutionnaire qui combat les habitudes du conformisme scénique et tente de substituer aux mensonges des faux décors et de l'art ampoulé l'illusion, le pouvoir d'un théâtre pur où c'est le spectateur lui-même qui fait le spectacle.
Le plus grand nombre, cher à Malraux, ne fut pas un tout le monde indifférencié. C'était une volonté dynamique, un espoir, une ambition politique qui n'ignorait rien des désastres toujours possibles. On était loin des effets de masse segmentés en tranches de marché, tels que nous les vivons aujourd'hui.
Et il faut bien reconnaître que le grand public se sent parfaitement à l'aise devant une dramaturgie audacieuse, dont la nudité même oblige à penser, à imaginer, à créer. Le théâtre populaire, c'est le théâtre qui fait confiance à l'homme.
J'ai souvent invité des amis à la répétition d'une pièce de théâtre. C'est alors seulement qu'ils comprennent que nous avons un métier. Les donneurs de loisirs que nous sommes sont soumis aux mêmes impératifs que tout autre travailleur. Mais alors, vous travaillez comme nous ? Me disait un fonctionnaire d'assurance. Ce qui me surprend le plus, peut-être, c'est l'étonnement du spectateur face à l'ABC de notre métier. Comme, par exemple, lors de différentes interprétations d'un même personnage. Mais aussi face aux difficultés de logement, de transport, d'alimentation. Voilà qu'il se rend compte qu'elles sont les mêmes, qu'on soit acteur, fonctionnaire, ouvrier ou commerçant. Nous sommes des êtres humains. Et pas des schémas ou des abstractions. Une fois que ceci est acquis, on ne peut s'empêcher de se pencher sur les rapports entre employeurs et employés. Et la lutte sociale devient nécessaire.
Service public. Dieu merci, il y a encore certaines gens pour qui le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. Et c'est à eux, d'abord, que s'adresse le Théâtre National Populaire, le TNP. Et donc, en premier chef, un service public, tout comme le gaz, l'eau, l'électricité. Autre chose, priver le public de Molière, de Corneille, de Shakespeare. Et à n'en pas douter, une certaine qualité d'âme en lui s'atténuera. Notre ambition est donc évidente, faire partager au plus grand nombre ce que l'on a cru devoir réserver jusqu'ici à une élite. Enfin, la cérémonie dramatique tire aussi son efficacité du nombre de ses participants. Mais quel équilibre difficile ! Et combien délicat à maintenir, équilibre entre le poète, son œuvre, le grand public, les interprètes, les techniciens. Et cependant, cette instabilité crée peut-être un style vivant. Et parce que celui-ci est quotidiennement menacé, cette même instabilité déjoue les tics, les trucs, les scléroses. Cette instabilité dangereuse préserve aussi de toute théorie. L'art du théâtre populaire est donc une révolte permanente.
Et toutes ces personnes qui viennent vous voir ça peut être encore mieux que moi, à quoi sert et à quoi leur sert le théâtre. Comme la lumière leur donne une ombre, comme le miroir leur donne un reflet, le théâtre leur donne un double, et même plusieurs. Et cette ombre, ce reflet, c'est double. Fournissent à ces personnes des indications forcément précises sur qui elles sont, sur leur corps, sur leur position dans l'espace et dans le temps, où elles sont. D'où elles viennent, et même où elles vont. Et plus la tempête est grande sur la scène, plus le héros se fait malmener, plus il est un phare pour guider tous ces immobiles dans le silence de la salle. On peut alors penser qu'ils deviennent un peu meilleurs, tous ensemble, et moi avec eux.
Un autre exemple. 20 ans que je me le coltine. Quand tu entres dans un théâtre, pour faire ton travail, hein, dans un théâtre, pour travailler. Il y a toujours un imbécile qui va se charger de ridiculiser le monde de l'expression juste parce que c'est de l'expression. Alors qu'il ne sait même pas encore ce que tu vas dire. Ceux-là, ce sont les empereurs de la clim. Ils se sentent importants face au monde de l'expression. Supérieurs. Ils adorent montrer leur indifférence au monde de l'expression, leur mépris. Ils veulent que ça se voie, juste parce que tu appartiens au monde de l'expression. Comme si le monde de l'expression, en général, les offensait. Ils adorent faire chier le monde de l'expression avec la putain de télécommande de la clim. C'est la plus haute expression de leur liberté. De leur créativité, de leur intelligence et de leur pouvoir. Ceux-là, ils n'aiment pas leur travail. Ils sont amoureux de leur ignorance, de leur bêtise, de leur grossièreté, de leur vulgarité, de leur alcoolisme, de leur putain de télécommande de la clim. Et moi, je me demande, s'ils méprisent tant que ça le monde de l'expression, pourquoi est-ce qu'ils bossent dans un théâtre ? Dans un lieu consacré à l'expression, s'ils méprisent tant que ça le monde de l'expression, pourquoi ils s'approchent au théâtre comme des tiques ou des puces ? S'ils méprisent à ce point le monde de l'expression, pourquoi est-ce qu'ils ne s'en vont pas installer leur clim ailleurs ?
L'espace théâtral est dans notre tête. Ici, il n'y a pas de spectateurs. Le théâtre est un. Après que nous avons parlé avec vous, applaudir ou siffler est inutile. Parlez avec nous. L'acteur est un critique. Le metteur en scène est un critique. Le spectateur est un critique. L'auteur est un sujet et un objet critique. Le théâtre n'est pas un médium de masse. Le théâtre est une forme de lutte contre la culture de masse. Ah bah, tous les théâtres anti-académiques qui remplacent un théâtre académique qui ne peut pas exister. Ah bah, le théâtre fatigue à tous les niveaux sémiologiques. Le théâtre facile est objectivement bourgeois. Le théâtre difficile est pour les élites bourgeoises cultivées. Le théâtre très difficile est le seul théâtre démocratique.
Ma première fois. Vous voulez que je vous raconte ma première fois ? Il y a longtemps. Si être, c'est être vu, peut-on exister si on est seul ou ignorer les autres ? 6 mois pour comprendre le texte. Une seule représentation. Personne dans la salle n'a rien compris. Mais un gros succès d'estime. Et une grande fierté d'avoir joué pour la première fois.
En haut, bien loin, nous étions là. Ses longs cheveux noirs, sa robe blanche, ceux d'en bas, la regardait-elle avec ses mêmes yeux que j'avais ? De mes yeux trop petits, elle était roi, me soufflait-on à l'oreille. Elle a salué, le plateau touchait ses cheveux, j'ai vu de mes yeux trop petits, puis... Dehors, Paris, la pluie, moi sautillant et le rêve naissant.
L'odeur nauséabonde des parfums de luxe qui tournent sur les peaux flétries de la bourgeoisie vieillissante. Théâtre Tête d'Or, Lyon.
Si vous aimez le théâtre, si vous avez conscience que l'art du théâtre puisse être en dignité, en beauté régale des autres arts.
Si vous avez honte et dégoût, de le voir de jour en jour s'avilir dans l'insignifiance.
La bassesse, le cabotinage et la spéculation.
Si vous souhaitez qu'il reprenne sa place d'honneur dans la vie de notre pays.
Et sa mission dans le monde.
Si vous croyez que nos grands auteurs classiques, quand ils sont joués simplement.
Avec intelligence et sincérité.
Retrouvent sur la scène l'éclat de leur jeunesse et peuvent inspirer les écrivains d'aujourd'hui.
Si vous voulez que des hommes nouveaux. Les plus puissants et les plus libres de nos créateurs
reprennent possession du théâtre d'où ils ont été bannis
et disent ce qu'ils ont à dire.
Public français,
public cultivé.
Ne vous contentez pas de votre mécontentement.
Agissez avec nous.
Soutenez l'effort de ceux qui créent.
Montrez-vous digne de la confiance qu'ils vous ont donnée.
Jeunes gens d'aujourd'hui.
Public nouveau.
Venez construire un théâtre neuf.
Digne de nos vieilles traditions.
De nos énarties victorieuses.
Digne des poètes et du peuple.
Digne de vous.
Appel de Jacques Copeau pour la réouverture du Vieux Colombier, 1919.
Troisième temps. Le dissenseur Mathias Belair, avec la salle, interroge les propos du débatteur et du chœur.
Voilà normalement terminée la partie intéressante de la soirée. Nous allons enchaîner sur la partie du dissensus que je vais devoir animer. Simplement, effectivement, nous avons eu là deux versions. Une version subjective d'un directeur de théâtre, une version plus historique et philosophique, tiré des grands textes. On vous donnera les noms selon vos questions. Et donc là, l'idée maintenant, c'est de vous rendre, d'essayer de vous donner la parole. Vous donner la parole autour de plusieurs idées. Un théâtre, bien sûr, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Donc je me suis déjà trahi. Un théâtre, comment ça marche, moi, ça me renvoie à un théâtre, qu'est-ce que c'est. Et forcément, à un théâtre, à quoi ça sert. Et puis on peut généraliser et on arrive à le théâtre. Ça sert à quoi? Donc c'est un petit peu sur ça que j'aimerais partir. Je vais vous raconter deux anecdotes avant de vous donner la parole. La première, c'est une anecdote, c'est un comédien de 76 ans qui m'a dit ça. C'était il y a 2 ans, maintenant il en a 78. Il continue de travailler malgré tout, mais je lui proposais de travailler avec nous sur un spectacle et il m'a dit, tu sais Mathias, les raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier n'existent plus. Voilà, il a commencé, il est de la classe 2 du conservatoire de Strasbourg, donc je crois qu'il a commencé en 54. La deuxième anecdote, ça m'est arrivé à moi aussi, c'était dans un théâtre pas loin d'ici. Je blaguais avec un des techniciens, un jeune technicien, mais qui était permanent employé municipal depuis plusieurs années dans ce théâtre, et je blaguais, et sous le ton de la blague, je dis, ouais, ce qui est quand même chiant dans les théâtres, c'est quand même les comédiens. Et il me répond, premier degré, putain, m'en parle pas. Et c'est vrai qu'on imagine facilement, quand on travaille dans un théâtre, au jour le jour, quotidiennement, quand on doit faire le ménage après le passage des équipes, quand on doit remplir des dossiers, lire des dossiers de subvention à la mairie, peut-être, je me dis, on imagine peut-être assez facilement un espace culturel sans artiste. Ça serait peut-être ça. Tu parlais tout à l'heure du thermomètre de la démocratie, le théâtre en tant que thermomètre de la démocratie. À quel degré on en est, sans être mortifère, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une démarche quelque peu, je sais pas, j'ose pas le dire à ce niveau-là, mais je regarde beaucoup de séries américaines et anglaises, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries avec des gens qui font des enquêtes. Et vous savez, dans les enquêtes, il y a toujours un thermomètre qu'on met dans le foie pour savoir à quelle heure est mort le cadavre. Voilà. Donc je vous donne ça. Il y a 2 micros qui circulent.
Ce que je voulais vous demander tout à l'heure,
public
c'est
nouveau,
le plus important, c'est pour ceux qui n'en font pas, qu'est-ce que représente le théâtre pour vous dans votre vie? Voilà. Alors le micro peut partir.
Alors moi personnellement, j'ai 2 choses qui sont peut-être atypiques. J'ai découvert le théâtre à la télé, mais pas, rassurez-vous, c'était pas au théâtre ce soir, c'était à la télé portugaise et c'était des retransmissions dans les théâtres avec des reconstitutions pour la télévision. Donc c'était quand même à un niveau supérieur et d'exigence et de répertoire qu'au théâtre ce soir, comme on connaît en France. Et donc déjà, j'ai appris par là des textes comme Brecht et même des gens comme Labiche et puis d'autres auteurs. Mais après, il y a eu un grand hiatus où je suis allé de temps en temps. Mais c'est surtout parce que j'étais très très mal dans la vie il y a une quinzaine d'années. Et tout d'un coup, Il y avait la possibilité au théâtre Jean Villard de Paris, de Saint-Denis, d'avoir des abonnements vraiment pas chers. Et je suis allé. Et puis on avait le droit d'aller autant de fois qu'on voulait. Et ça m'a sauvé en fait, parce que voir ces gens comme ça vivants en face de nous, qui disent des choses, qui donnent tout d'elles-mêmes pour nous faire plaisir, voilà. Et c'est de là qu'est venue vraiment la passion du théâtre. Avant c'était quelque chose que j'aimais, et là c'est devenu une passion, voilà.
C'est rigolo ce qui vient d'être dit, parce que dernièrement j'ai rencontré un directeur de scène nationale et je lui ai dit, tiens, c'est pourquoi on proposerait pas aux spectateurs qui ont déjà acheté une place pour un spectacle de la voir encore et encore et encore, et il a souri. C'était, pour lui, c'était pas admissible parce que économiquement non viable. Ouais. C'était viable au Portugal ou à Saint-Denis.
Alors moi j'ai déjà fait du théâtre, donc je vais pas forcément répondre à la question posée, mais je me demandais, comme disait le comédien là-haut, Mathias, si je me trompe pas. Oui, donc vous disiez que parfois les comédiens ils étaient un peu pénibles, mais est-ce que vous auriez une autre solution alors pour les rendre moins pénibles, ou je sais pas, peut-être qu'il faudrait faire jouer d'autres personnes, ou je sais pas.
J'ai dit que les comédiens étaient pénibles, d'accord.
Ah oui, vous l'avez dit, hein.
Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, quand à partir du moment où il me semble que si on cristallise, ou si je l'ai dit dans un contexte, j'arrive plus à me rappeler, mais c'est toujours pareil, quand je prends la parole en public, souvent c'est un trou noir. Il me semble que si on taxidermise un individu dans sa fonction, il perd sa fonction d'individu. C'est-à-dire que si effectivement j'ai en face de moi des comédiens qui ne sont que des comédiens, ça devient compliqué. Si j'ai en face de moi des comédiens qui sont aussi des individus, c'est-à-dire des êtres vivants, c'est-à-dire des êtres de chair qui aiment, qui ont envie, qui désirent, qui ont des passions, là, ça devient intéressant. Donc effectivement, travailler avec d'autres, c'est tout à fait possible. Travailler avec des gens, c'est ce qui m'intéresse. A priori, j'essaye de plus en plus, c'est assez amusant que vous posiez cette question, j'essaye de plus en plus de travailler avec des gens. Ça n'empêche pas que ce soit des professionnels, hein, mais avec des gens.
Luc, j'ai une question pour toi, puisqu'on est dans le dissensus. Pourquoi ne pas avoir, comme la dame courroucée vous l'a demandé, rajouté une soirée supplémentaire avec Brigitte Fontaine ? Vous auriez rempli la salle, fait une belle recette, et peut-être rendu des gens heureux.
Alors je vais faire sinistrement une réponse économique. C'est que Brigitte Fontaine ne part pas avec la caisse le soir. Évidemment que tout ça est l'objet d'un contrat. Que Brigitte Fontaine, c'est terrible hein, de parler de chiffres comme ça, mais doit coûter entre 10 et 15 000 euros, et que la recette d'un soir, c'est 3 000 euros. Voilà, donc il faut savoir aussi que le théâtre public, il bénéficie de subventions, c'est pour ça qu'il est public et qu'il est pas cher, qu'il est accessible. Donc c'est une raison économique. Après, c'est une raison de calendrier, c'est-à-dire que Brigitte Fontaine devait chanter aussi, autre part sans doute, le lendemain. Mais c'est vrai que l'économie rentre en ligne de compte aussi. Et que Brigitte Fontaine est parfois pénible aussi.
Bonjour. Donc moi, je vais parler de mon cas personnel. Donc moi, j'ai découvert le théâtre au Théâtre Chez Ce Soir quand j'étais enfant. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Avec Jean Le Poulain et Maria Pacom, on attendait ça avec impatience. Et c'est vrai que j'ai revu il y a quelques années... je sais pas quoi, Tu étais si belle en noir, ou je ne sais trop quoi, là où elle tue son mari sans arrêt, enfin, elle essaye de le tuer. Et j'ai trouvé ça aussi marrant. Donc, il y a des choses qui, quand elles sont bien, ben, restent bien des années après. Après, moi, je suis d'une famille où on n'est pas du tout, j'ai pas eu du tout une éducation théâtrale, et je m'y suis mise vers 18-19 ans. À l'époque, il y avait Jérôme Savary sur Montpellier. C'était très peu cher. C'était moins cher quand on était étudiant que d'aller au cinéma. Et pourtant, tous mes copains et copines, tout le monde avait peur d'aller au théâtre. Parce que c'était un télo, parce que j'avais beau dire que Jérôme Savary c'était pas un télo, ben j'arrivais pas à faire suivre. Donc j'ai réussi à faire suivre à l'époque ben celui qui est encore mon mari. Donc voilà, depuis 30 ans quand même, il est pas là ce soir. Et donc le problème du théâtre, c'est que quand c'est génial, c'est vraiment génial, mais c'est fini. Le lendemain, vous pouvez pas dire à vos copains et copines « Allez voir telle pièce, parce qu'elle est déjà passée. » Bon, Non, elle repasse pas. La plupart du temps, quand vous êtes en scène nationale, où les places sont prises, c'est pas comme le cinéma, où il y a le bouche à oreille qui peut jouer. C'est ça le problème du théâtre. Donc moi, j'ai toujours eu en général au théâtre un temps de retard, c'est-à-dire que chaque fois que je revenais d'une représentation en disant « c'est génial, il faut que vous y alliez », soit il y avait deux représentations, tout était pris, ou soit il n'y a plus rien. Il y a aussi des fois où le théâtre, quand c'est pénible, c'est vraiment pénible. Et là, c'est quelquefois la fois où vous avez réussi à convaincre un copain ou une copine de venir, et là, il vous regarde et il dit « c'est là que tu m'as amené, Agnès ?» C'est ce que tu aimes voir. Et il faut s'attendre dans une saison théâtrale à voir un ou deux spectacles de cet acabit. Ça fait partie des meubles. Mais voilà, c'est mon expérience. Ça fait 30 ans. Je suis abonnée à pas mal de théâtre. Enfin, c'est l'économique qui me limite. Donc, je suis abonnée sur deux théâtres. Je vais quelquefois aussi sur Paris. Et je vois mal ma vie sans théâtre. Bien que, et je pense quand même avoir, donner ma pierre à l'édifice, parce qu'à force de casser les pieds à tout le monde avec mon théâtre, on a réussi à être une petite troupe. Bon, là, c'est qu'une partie de la troupe, c'est ma copine Huguette. Mais on est un groupe de 15 à 20 maintenant qui allons tout le temps au théâtre. Et je trouve que c'est bien. Mon seul regret, c'est que, bon, finalement, mes enfants, j'ai pas réussi à les amener au théâtre. Là, j'espère que ça leur viendra plus tard, mais alors c'est peut-être bon ça. Maman veut toujours aller au théâtre, alors nous on veut pas y aller. Bon, peut-être, mais bon, ou alors c'est l'hérédité peut-être, parce que moi je suis une exception un peu dans la famille. Voilà, bon, c'est un peu long, ça donne mon expérience personnelle, mais bon, c'est vrai que le théâtre c'est autrement mieux que le cinéma quand c'est bien. Voilà.
Alors, moi j'ai découvert le théâtre avec ma mère lorsqu'elle montait sa propre troupe en Turquie. Donc elle m'a fait participer dès l'âge de 4 ans, j'en fais depuis jusqu'à maintenant. Et elle ainsi que le metteur en scène avec qui j'étais au lycée m'ont permis d'avoir une certaine... Enfin, m'ont montré comment être un spectateur au théâtre. Il n'y a pas une manière particulière, mais en tout cas... ils vous apprennent qu'il y a une certaine sensibilité à avoir au théâtre. Du coup, moi je pense qu'on va au théâtre pour se forger une opinion, pour chercher de l'inspiration, pour tout simplement découvrir un chef-d'œuvre, ou pour se lamenter terriblement devant un navet. Mais dans tous les cas, on se cultive, on grandit à chaque pièce qu'on voit, on forge une opinion, on devient grand, on a une expérience, et du coup, c'est ce qui permet de faire de nous un spectateur. C'est savoir reconnaître de bonnes pièces, en reconnaître des mauvaises, à se cultiver également. Et à découvrir une certaine sensibilité chez d'autres êtres humains. C'est un grand moment de partage aussi entre le public et l'acteur, ou les acteurs, où justement, chaque élément, que ce soit le public, l'acteur, le régisseur, chaque personne ne forme qu'une unité, tout en étant séparés à un certain point, techniquement parlant, mais où, justement, ils sont tous dans un même état d'esprit, et... connaissent un moment magique en prenant en compte que la pièce ne soit pas un navet. Voilà.
À ce moment, un spectateur sans micro pose la question de l'implication du public dans un spectacle.
Je peux éventuellement apporter un élément de réponse. Éventuellement sous forme d'un petit dicton qui m'a été donné par Bernard Louba, qui explique la différence entre être impliqué et être concerné. Voilà, donc ça, si vous la connaissez, je vous la fais courte. Donc, dans une omelette au lard, la poule est concernée, le porc est impliqué. Voilà. Et euh... Et c'est vrai que je crois qu'on a cette tendance, on a cette nécessité pour nous, on a cette nécessité, et c'est un peu cette tentative qu'on essaye de faire, qui est peut-être désespérée, mais on a cette nécessité quand on crée un spectacle. Là, je vais parler que du metteur en scène, je parle même pas de la relation au partenaire, mais je crois que quand on crée un spectacle, on a absolument l'absolue nécessité de penser que ça sert à quelque chose. On essaye désespérément de s'en convaincre. Parce qu'au final, on fait que raconter des histoires à des gens qui ont payé pour les écouter et qui sont pas dupes, absolument pas dupes, que c'est faux ce qu'on raconte, que c'est un mensonge. Voilà, vous venez assister à un mensonge et nous, on vous donne du mensonge. Alors, voilà. Et donc, si nous, on n'arrive pas à se persuader que c'est important, et pour se persuader que c'est important, c'est que d'autres qui ne sont pas concernés, mais soient impliqués, se disent, putain, c'est vrai que c'est important. Et donc, l'idée d'impliquer le public à l'intérieur des créations, ou à l'intérieur du fonctionnement d'un théâtre, ou à l'intérieur d'un, c'est aussi rendre, possible la création. Si on n'y croit plus, c'est comme les fées, hein. Si t'y crois plus, elles meurent. Et ben, le théâtre, c'est à peu près pareil. Si t'y crois plus, il meurt. Voilà. C'est comme dans les livres de fées. Bon, si ça donne un peu une réponse, voilà. Alors, je crois qu'il y a une classe qui va partir, donc ne vous effrayez pas. Il se lève d'un coup et il s'en va.
Juste avant que vous partiez, quand même. Vous avez entendu ce soir des textes de Pier Paolo Pasolini, Jean Villard, André Benedetto, Jean-Marie Ordette, Roland Barthes, Angelica Lidl et Jacques Copeau. Voilà. Et je remercie également, bien sûr, mon complice Mathias Beller, artiste associé au théâtre, qui a mis en espace donc cette soirée. Je remercie Richard Mitou, directeur de l'ENSA de Maison Louis Jouvet, et Philippe Goudard, professeur des universités en art du spectacle à l'université Paul Valéry, qui nous ont prêté et leurs étudiants et leurs élèves. Et vous pourrez demander à Richard Mitou tout à l'heure la différence entre un étudiant et un élève. Ou tu peux peut-être le donner tout de suite. Et bien sûr, je remercie Daniel, Louis, Jules, Is, Jessie, Kyoko, Grégoire et Guillaume, ces étudiants et ces élèves qui viennent de travailler tout le week-end. Allez, montrez-vous. Allez-y. Et je vous donne les deux prochains rendez-vous. Le 27 janvier, c'est le théâtre à l'heure du numérique, c'est-à-dire que est-ce que les écrans vont l'emporter, avec Franck Bochard, qui est le directeur de la Panacée. Et le 17 février, le métier d'acteur aujourd'hui, avec Richard Mitou, directeur de l'École nationale supérieure d'art dramatique, Maison Louis Jouvet. Voilà, ceux qui veulent nous rejoindre au bar peuvent nous y rejoindre. Je remercie la classe à option théâtre de Lunel d'être venue. Et puis l'atelier du théâtre. Bonsoir.